Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour, quelle formidable énergie. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui David Abrias. Bonjour David.
Bonjour Myriam.
Donc David est directeur général du groupe Cardam, en charge de l'architecture, grand volet, le volet de l'architecture, surtout en ce moment avec le fait d'être confiné, déconfiné, reconfiné. Effectivement, c'est une thématique formidablement intéressante. Et j'aimerais bien commencer par vous parler de l'amélioration et des performances du bâtiment, parce qu'on a envie que le bâtiment demain soit... extrêmement intelligent et répondent à toutes les problématiques, qu'elles soient thermiques, acoustiques. Qu'en pensez-vous, David ?
Ah bah, c'est sûr que, qu'on est de plus en plus, enfin, de mieux en mieux équipés pour concevoir des bâtiments efficaces. Hein. Alors, on oppose souvent l'équipement technique des bâtiments et le bon sens de conception, mais il faut pas oublier que les outils dont disposent les architectes aujourd'hui permettent de faire des choses extrêmement sophistiquées en termes d'optimisation, de l'orientation des bâtiments, de calcul de toutes l'efficience de toutes les peaux, des inerties, etc. Donc on a aujourd'hui des outils qui nous permettent de faire de façon très précise ce qu'on faisait jusque-là de façon un peu empirique et en tâtonnant, qui permettent d'être plus efficaces, bien sûr dans la performance technique des bâtiments, c'est souvent la première chose à laquelle on pense, mais pas uniquement.
Alors on est d'accord qu'on pourrait aussi lier ça au sensitif, hein, parce qu'on sait très bien que un bâtiment il est perçu, il n'est pas seulement conçu. Et du coup, une fois qu'on est un utilisateur à l'intérieur de ce bâtiment, comment reçoit-on les performances techniques, qu'elles soient thermiques ou acoustiques, que les architectes et surtout un groupe comme le vôtre ont pu mettre en œuvre ?
Alors, c'est intéressant comme question parce que on a travaillé il n'y a pas très longtemps sur un label qui a été mis en œuvre par une région et qui, parmi tous ces critères de performance, de développement durable, mettait en lumière la valeur poétique du bâtiment. Alors, j'adore ce concept.
Ça, le sensitif,
malgré tout, le sensitif d'un point de vue de l'utilisation, de l'usage d'un bâtiment, c'est beaucoup également ce qui est perçu de prime abord. Et quand on voit les sujets de grogne des utilisateurs, 90% de la grogne, c'est la clim. Donc le sensitif thermique est quand même
extrêmement important. Le voisin, etc.
Ouais, et d'autant qu'il est lié d'une part au sensitif, mais aussi au subjectif, parce que c'est une notion sur laquelle on a du mal à faire correspondre des données un peu objectives. Ça dépend des individus, ça dépend de l'ambiance, ça dépend du moment. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça demande sans doute une capacité des bâtiments de s'adapter à de multiples configurations pour pouvoir justement faire écho à la sensitivité de chacun.
Et alors du coup, comment fait-on pour résoudre les problèmes d'acoustique ? Parce qu'on s'est bien rendu compte que ce soit dans les équipements ou que ce soit dans les bureaux, ou peut-être qu'on a pendant un certain nombre d'années mis en avant la thermie, justement le ressenti entre la clim, le froid, le chaud, etc. Alors qu'effectivement, on voit très bien que l'acoustique aujourd'hui, le bruit, le perçu à la fois de la ville et dans le bâtiment par rapport au bruit, est extrêmement prégnant. C'est quelque chose qui est devenu extrêmement important.
Alors, je vous sens sensible, Myriam, sur le sujet de l'acoustique. Je pense que c'est parce que vous êtes confinée en studio depuis trop longtemps.
Vous avez deviné, David, merci.
Mais vous n'avez pas tort. C'est sûr que... Alors, je ne pense pas que l'acoustique ait été délaissée. Hein. Ça fait très longtemps que c'est un des critères de la norme HQE, par exemple, hein, la qualité acoustique. Après, c'est sûr qu'il y a un peu des idées reçues sur l'acoustique qui font qu'on a longtemps privilégié l'isolation. On s'est plaint d'avoir des ambiances sonores trop élevées dans les bureaux. Et alors là, c'est assez intéressant parce qu'avec le confinement, vous remarquerez que quand les bureaux sont vides, les gens se plaignent, que ce soit un peu silencieux. Et en fait, ça remonte tout le niveau des bruits parasites qui sont autour. Donc, le secret d'une bonne acoustique, c'est surtout en fonction des configurations, hein, parce que bien sûr, il y a différents types de besoins, mais c'est surtout d'avoir des niveaux qui soient assez flats, c'est-à-dire sans pic. Et ce, malgré parfois un niveau un peu élevé, il y a eu des expériences qui ont été faites il y a plusieurs années, d'extrême isolation phonique de bâtiments et de mise en œuvre de matériaux très très isolants à l'intérieur. Et en fait, c'est pas du tout agréable parce qu'on n'entend plus rien.
Ou on s'entend trop parler, du coup.
On s'entend respirer. Enfin bon, ce curseur, il n'est pas facile à mettre en place. Mais je pense pas que ce soit un facteur qui a été délaissé, même si vous avez raison, la performance technique et notamment thermique qui s'appuie sur des facteurs mesurables est plus facile à prendre en compte que celui-là. Ouais.
Alors, on parle de l'amélioration de la performance du bâtiment. Demain, le bâtiment autonome, c'est-à-dire où on a la récupération des eaux pluviales, des panneaux photovoltaïques, des chauffe-eau solaires, etc. On va dire des espaces de liberté qui font qu'on se dit, tiens, mon immeuble ou l'immeuble de ma société, il peut être demain complètement autonome et vivre sa vie indépendamment des contraintes des concessionnaires et autres. Ça peut être une réalité ou c'est utopique, hein?
Alors c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est sûr, mais peut-être pas tout à fait dans le sens que vous évoquez, c'est-à-dire que quand on parle par exemple de la production énergétique des bâtiments, hein, ce qui va être l'orientation de toutes les nouvelles normes qui sont en train de s'élaborer, la réglementation environnementale 2020.
Voilà, 2020, on va en parler, bien sûr.
On va en parler, mais en fait, l'idée, c'est plus d'arriver à mettre les bâtiments dans un réseau d'échange d'énergie, d'eau, etc. Parce que le problème de toutes ces utilités que vous venez d'évoquer, c'est pas tant c'est le delta en fait entre le moment où on arrive à les collecter et le moment où on en a besoin.
C'est ça. Donc c'est plutôt une mutualisation des énergies plutôt qu'une autonomie de chacun vis-à-vis de ses propres énergies.
Bah, probablement. Alors c'est sûr que on a eu un système d'aller-retour sur la production d'énergie électrique sur les bâtiments, notamment par les panneaux solaires. À une époque, on les réinjectait dans le réseau et c'était intéressant. Et puis maintenant, pour des raisons économiques, c'est un peu moins intéressant et on tend à l'autoconsommation. Mais on se rend compte que l'autoconsommation a ses limites. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de typologies de bâtiments qui sont adaptées à ça. Pour être un bon autoconsommateur, bah, il faut consommer tous les jours de la semaine, pareil, toute l'année.
Oui, ce qui est quand même idéalement 8 jours.
Donc, c'est une grande utopie, notamment sur le parc de logements où les gens, dans le temps, étaient là plutôt le soir, mais peut-être que ça va revenir. Le parc de bureaux où, dans le temps, les gens étaient là plutôt la journée. Donc, c'est plutôt sur ces phénomènes d'écrêtage qu'il va falloir travailler. Et ça pose un gros challenge dans la mise en œuvre de la future norme. Mais c'est aussi une belle opportunité, notamment pour tout ce qui est Smart City, parce que les bâtiments vont devoir s'organiser en réseau communicant pour pouvoir échanger de l'énergie, et puis progressivement ça va nous permettre d'avoir un support pour de l'échange d'informations, de la mutualisation d'informations et donc des synergies dans un écosystème qui sera, on l'espère, coordonné et de façon intelligente.
Alors c'est l'écosystème quoi, du quartier, de l'îlot, du quartier, de la ville?
Ah bah tout ça, ça va être très homothétique, mais c'est sûr qu'on réfléchit beaucoup à des circuits courts. Alors vous vous souvenez sans doute l'initiateur de ces systèmes de vases communicants. Quand, il y a quelques années, Tesla avait vendait en package la voiture avec une batterie et la couverture photovoltaïque pour mettre sur sa maison. La batterie sert à stocker l'énergie qu'on produit soi-même. Et donc, ça va être des systèmes homothétiques, je pense, où on va essayer de gérer un maximum de proximité. Vous savez sans doute qu'une des sources importantes de déperdition d'énergie, c'est le transport de l'énergie. Le fait de transformer, de changer le voltage, on perd entre 10 et 30% de l'énergie qui est produite. Donc, plus on la consomme localement, mieux c'est. Et je crois que par les temps qui courent, on a compris que de consommer local, c'était quand même pas complètement incohérent. Et voilà, donc vont s'organiser, je pense, des communautés, des écosystèmes qui pourront évidemment s'interconnecter les uns avec les autres, mais qui auront tout intérêt à gérer une proximité, une intelligence locale.
Alors justement, je rebondis un petit peu sur cette intelligence locale, puisque avant d'être locale, on a quand même une norme environnementale 2020 qui nous pend au nez, qui, elle, pour le coup, est nationale. qui va être mis en œuvre non seulement, non pas pour janvier 2021 comme il était, je dirais c'était à l'origine, ça devait être mis en place en 2021, mais ça va être légèrement décalé de par le Covid et ce qui se passe. Est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde est à même aujourd'hui de comprendre cette nouvelle norme environnementale, de pouvoir l'accepter? Est-ce que, comme elle a été quand même réfléchie et conçue il y a à peu près 4-5 ans, est-ce qu'elle n'est pas déjà, pour une part, obsolète,
hein? Alors, comment dire, je crois que déjà c'est une tradition en France que de sortir les réglementations thermiques à la mauvaise année, parce que ça ne marche jamais. L'air de 2012 déjà, elle n'est pas sortie en 2012, etc.
Voilà,
etc.
C'est ça, c'est exactement ça.
Donc ouais. Ça, c'est le principe. Et voilà, on sait qu'un bâtiment, bah, c'est quelque chose qui met du temps à être conçu, qui met du temps à être construit. Et on taxe souvent un certain nombre de choses d'être obsolètes avant leur sortie. Alors, pour ce qui est de la norme, moi, je suis pas très inquiet parce qu'elle va devoir se maturer. Il y a des choses qui sont excellentes dans cette norme. On n'est pas prêt à tout et il y a encore beaucoup de travail pour être capable de le mettre réellement en œuvre. On a tout ce qui est importation de carbone. Aujourd'hui, dans les normes actuelles, on ne savait pas tellement évaluer sur des matériaux importés quel pouvait être leur impact carbone, quel pouvait être l'impact dans la chaîne. Donc, il y a des choses qui sont de toute façon, non pas obsolètes, mais qui ont besoin d'être mises au point, en fait, sur lesquelles il va falloir de la
c'est
donnée.
C'est ça, vous n'avez pas l'impression que toutes ces données-là vont quand même être un peu mises de côté par les constructeurs, les promoteurs, les investisseurs, en se disant, oulala, avec tout ce qui nous tombe dessus, on va peut-être repousser ces problématiques de bilan carbone sur les matériaux.
Je vais vous dire, j'espère que non, parce que ce qui nous tombe dessus est aussi un peu une conséquence de la façon dont on a fonctionné depuis quelques décennies et quelques siècles. Donc je pense que le signal que ça doit donner, c'est pas du tout qu'il est urgent d'attendre, mais au contraire, il est urgent d'agir. Mais la réglementation qu'on souhaite mettre en place, elle est extrêmement ambitieuse. Ça veut dire qu'on va vraiment s'attaquer à tout ce qui est cycle de vie du bâtiment. On va s'attaquer à la difficulté de réemploi des matériaux et on a eu l'occasion d'en parler sur cette antenne, donc c'est quelque chose qui va demander la mise en place de filières.
Le cradle to cradle.
Le cradle to cradle, il faut des outils adaptés, il faut beaucoup de choses et aujourd'hui on a ces filières en sont encore, en tout cas en France, à leur balbutiement, donc je pense pas du tout que la norme soit tombe à une mauvaise période. Au contraire, je crois qu'il y a eu une prise de conscience un peu accélérée là ces derniers temps qu'il fallait faire quelque chose. Et par contre, ça va pas être facile à faire. Ça, je suis d'accord avec vous.
Alors justement, est-ce que vous pensez pas qu'il faut passer par une année de pédagogie comme une année probatoire parce que pour faire accepter une norme. En France, on est souvent à essayer de faire accepter, on va dire, avec le bâton. Pour pouvoir avoir une acceptance importante, est-ce qu'il ne faudrait pas passer par une année de pédagogie, de souplesse, d'apprentissage, de mise en œuvre de cours en visio pour pouvoir appliquer, pour pouvoir sentir les choses et, je dirais, se les accaparer pour que ça devienne une évidence?
Vous savez, il y a un philosophe presque contemporain qui s'appelle Al Capone qui a dit « On obtient beaucoup plus de choses avec un sourire et un flingue qu'avec un sourire ». Donc j'aurais tendance à lui donner un peu raison. Non, on peut reculer toutes les échéances. Évidemment, je pense qu'il faut qu'il y ait tous les outils. La difficulté qu'on a eue dans l'application.
Je disais la pédagogie.
Oui, non, bien sûr, la pédagogie a toutes les vertus, mais l'urgence en a une autre. Donc, ce qu'il faut, je crois, c'est qu'on soit surtout cohérent, c'est-à-dire qu'on ait les outils de modélisation, qu'on ait un certain nombre de choses pour ne pas être obligé de faire l'impasse. Ça nous est déjà arrivé dans des changements de réglementation précédents où finalement les outils n'étaient pas prêts et on a mal fait parce que on pouvait pas faire autrement. Donc je pense qu'il faut surtout être cohérent par rapport à ça, éventuellement avoir une montée en exigence qui soit progressive. Par contre, malgré tout, si on n'est pas un peu directif, j'ai peur que les bonnes vieilles habitudes soient difficiles à laisser de côté, d'autant que, comme je vous le disais, ça va demander un effort d'arriver à se conformer à ça.
Oui, mais donc justement, on ne va pas y arriver comme ça, de but en blanc, application de la norme en été 2021. Tout le monde au garde à vous avec le sourire, mais le pistolet sur la tempe pour pouvoir y arriver. Je suis désolée, je prends votre image. Moi, je la trouve un tout petit peu excessive, mais c'est pas grave. Ouais, encore une fois, je suis d'accord.
Je cite Al Capone qui n'était pas mesuré pour sa tempérance. Mais...
Je suis d'accord avec vous, si ce n'est le fait que je pense qu'il y a des bâtiments sur lesquels on a cette habitude de la rigueur absolue, les bâtiments très techniques comme les hôpitaux, voire les immeubles de bureaux IGH, etc. Ça, je dirais que... une norme de plus, une norme de moins, on n'est pas... Enfin, je veux dire, ça ne fait évidemment pas peur. Par contre, quand on s'adresse au logement et à la thématique du logement sur lequel aujourd'hui, plus on rajoute de couches de réglementation, plus on se retrouve avec des complexités et des blocages. Or, aujourd'hui, on sait que surtout sur le logement en France, on est extrêmement en retard. Comment fait-on pour que les futurs utilisateurs sachent gérer ce bâtiment de logement, par exemple hyper high-tech ou que les promoteurs en anticipation sachent donner les bonnes directives aux maîtres d'œuvre pour pouvoir, absorber toute cette réglementation et essayer de comprendre à chaque fois qu'on fait un trait de crayon d'où vient le matériau, son bilan carbone, etc. Ça ne fait pas beaucoup de choses d'un coup dans un temps aussi court.
Alors, ça fait beaucoup de choses, mais... en fait, quelque part, tout ça, ça devrait, en théorie, ça devrait nous rapprocher du bon sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas, besoin d'avoir 250 volumes de la norme pour savoir que c'est mieux d'aller chercher ses matériaux localement, que c'est mieux de bien orienter son bâtiment, que c'est mieux de trouver des systèmes passifs plutôt que des systèmes actifs. Donc tout ça, finalement, à la fin, ça devrait nous ramener à des choses qu'on devrait... On devrait faire par bon sens et qu'on a fini par faire différemment pour des mauvaises raisons. Alors moi, plutôt que de que d'étaler la mise en service de référentiel, et Dieu sait si on l'a fait, si on était permissif, si s'est passé des tas de choses. Moi, je prendrais pas ça tout à fait de la même façon. Je pense qu'il faudrait être plus, il faudrait rendre plus facile l'expérimentation vertueuse, c'est-à-dire la possibilité de s'écarter ou de simplifier. À la condition qu'on soit capable de venir démontrer que ça marche bien, et il y a des tas de choses qui marchent très bien, qui sont extrêmement simples à mettre en œuvre, qui finalement vont dans l'esprit de ce qu'on veut faire, mais qui sont jamais dans les bons référentiels, etc. Je pense que si on permettait une dérogation argumentée plus simple, aujourd'hui c'est quand même compliqué de s'affranchir de tout ça, je pense qu'on gagnerait en efficacité, on irait tout à fait dans le sens de ce que vous dites.
Enfin, oui, le fameux débat entre le high-tech, low-tech du bâtiment. Donc pour vous, on peut être high-tech, vertueux, avec du bon sens et s'en sortir, malgré la norme.
Mais oui, on peut faire, pour faire aujourd'hui un bâtiment low-tech et extrêmement passif, on n'est jamais aussi bien armé qu'avec tous les outils de modélisation qu'on peut avoir. C'est ce que je vous disais un peu en préambule. Aujourd'hui, dans les outils de conception paramétrique qu'on utilise notamment, on est capable de rendre... extrêmement optimiser l'implantation d'un bâtiment dans un site, par exemple, le calcul des ouvrants, etc., et de façon beaucoup plus efficace que quand on le faisait au jugé il y a quelque temps, et aussi que les outils de simulation des normes qu'on avait jusque-là. Donc, les deux sont effectivement pas du tout...
antinomique,
ouais. on peut pas les opposer. D'ailleurs, on voudrait se priver de technologie qu'on n'y arriverait pas. Et puis, on n'a pas intérêt à vouloir parce que la technologie peut apporter des choses, mais n'est pas nécessairement source de comportements aberrants ou de dépenses. On se souvient des tours de Dubaï où on faisait des tours en verre plein sud avec la clim qui tournait à fond. Voilà, ça, c'est une dérive. Aujourd'hui, avec beaucoup de technologies, d'intelligence dans les matériaux et dans les outils de conception, on sait faire des bâtiments qui nécessitent finalement très peu de mise en œuvre de techniques derrière. Et donc, qui facilitent l'usage, la maintenance et la pérennité des bâtiments.
Alors, je serais ravie, là, on va dériver un petit peu, mais je serais ravie lors d'une prochaine interview, justement, peut-être de prendre un exemple et vous essayerez de me trouver un bel exemple de bâtiment low-tech, high-tech, hein, puisque aujourd'hui, on est d'accord sur le fait d'avoir des matériaux qui sont des matériaux issus non seulement d'un bilan carbone de qualité, mais aussi effectivement récupérer et réutiliser le tout avec une digitalisation très efficace. Je serais ravie de pouvoir rediscuter avec vous, David, avec un exemple à la clé. Merci en tout cas.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.